Fantaisiste, hygiéniste et musical, ces pochettes surprises. Parce que c'est bon pour la santé, bon pour le moral, bon et beau pour être bien et être en forme. Parce que c'est aussi le début du plaisir. Et parce que nous l'avons choisi comme thème aujourd'hui de votre émission, la propreté, l'hygiène.
Les bains, les douches, les crèmes, les onguents, les savons, les bulles. Nous allons nous baigner, nous laver, nous rincer, nous sécher et nous peigner dans pochettes surprises.
Et tout en nous faisant propres et beaux, nous allons écouter aussi de la musique parce que nous chantons aussi sous la douche. Et sans plus tarder avec l'ami Bobby Lapointe qui nous explique justement comment faire un tube de toilette.
Pour faire un tube de toilette, en chantant sur cette terre bête, avec des jeux de mollets, il faut pondre des couplets.
Permets que je te réponde, c'est sûr, faut que tu les pondes.
Bon, mais que dois-je pondre? Que ponge? Que ponge?
Pot, 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 le dernier mot qui t'a servi est éponge.
Serviette, éponge, parfait.
Allez, vas-y, je vais t'aider.
J'apprécie quand de toilette,
quand de toilette,
me soutient
ce lavabo,
ou plus vite c'est bien lavé,
c'est bien lavé.
Rite et ça, nous le savons,
à nous le savons de toilette.
Sur ce piano, les touches tièdes,
les touches tièdes.
Ton air est bon, mais mon shampoing,
mais mon shampoing.
Il sera peut-être pas sale demain,
sale de bain.
Il mourra en tout caminé,
ou caminé de toilette. Au chaud, au froid, au mitigé.
Cette salade, on verra dans
un verre à dents.
Un instant, si c'est le bide et
c'est le bidé.
Est-ce à répéter ou à terre?
Théo ou à terre?
J'aimerais mieux que d'autres lavandes.
Au de lavande, au de toilette. Au chaud, au froid, au mitigé.
Ma face de carême a rassé.
Crème a rassé.
Pour sur aura ce soir l'éthique.
Rasoir électrique.
Ils font rire les gosses métiques.
Les gosses métiques.
Sur ma gueule dans peigne à moustache.
Peigne à moustache cosmétique. Crème à raser, rasoir électrique, serviette, éponge, chanson de toilette, très poétique. Top.
Comme souvent, l'histoire commence par la Bible ou la mythologie, n'est-ce pas Philippe?
Eh oui, surtout en matière de propreté.
Eh oui, et Hygi, avec un H, était la déesse grecque de la santé. Son père s'appelait Esculape, le médecin qui ressuscitait les morts, et sa sœur s'appelait Panacée, des noms qui vous disent sûrement quelque chose, mon cher ami.
Hygi a donné en français le mot hygiène, qui signifie « bon pour la santé ». Et Panacée s'occupait aussi de médecine, sa sœur. Panacée qui signifie aujourd'hui remède, secours, la panacée étant le synonyme de remède universel.
Hygi devient une déesse puissante chargée de veiller sur la santé des êtres vivants. C'est elle notamment qui suggérait aux uns et aux autres le choix des aliments nécessaires à leur existence et les remèdes appropriés à leurs maux.
C'est-à-dire qu'elle faisait de la prévention. Vous le voyez, les Grecs avaient tout compris. Elle évitait ainsi à son père Esculape d'intervenir pour guérir les douleurs. On la représente portant un coq dans la main droite et dans l'autre un bâton entouré d'un serpent.
serpent, emblème de vigilance et de prudence.
Et oui, le serpent qui, on le sait, a des vertus thérapeutiques. Mais l'hygiène des Grecs et des Romains passe surtout par des bains. Il faut purifier son corps.
Les gens sont très attentifs à cette époque aux soins corporels et ils passent beaucoup de temps à se baigner dans des thermes collectifs. Ils sont également attentifs à la diététique et à l'exercice physique. Vous le voyez, les trois vont de pair.
Mon amour est comme un bain moussant. Je suis bien car je sens tes mains sur moi. Ton amour est comme un bain moussant. Je suis bien car je sens ton cœur qui bat. J'ai flirté sous les étoiles, cherché l'amour en t'attendant, effeuillé tous mes pétales. Je m'en foutais du prince charmant. Et puis j'ai croisé ton regard. J'étais toute nue, désemparée. Je n'arrivais pas à y croire. C'était mon cœur qui s'éveillait. Car je sens tes mains sur moi. Ton amour est comme un bain moussant. Je suis bien car je sens ton cœur qui bat. Before I met you, pretty flower, I was a hoodlum and a thug. Now I'm just under your power. I need your touch, I need your hug. I love your dress on your thin waist. Champagne was made just for your glass. And when you want me, you can't wait. Can't behave and I love that. Girl, your love is like a bubble bath. You make me wanna splash in your arms. Your love is like a bubble bath. I feel home at last in your arms. I'm in love with you, baby. I'm in love with you, baby. I've got your love, I've got no fear. I'm in love with you, baby.
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 I'm in an ocean to disease. Your slippery body and your glow. J'aime quand tu glisses tout sur ma peau. Your endless caress on my back. And why should we live without that? Oh, your love is like a bubble bath. You make me wanna splash in your arms. I'm in love with you, baby. I'm in love with you, baby. I'm in love with you, baby. I'm in love with you, baby.
gymnase grec dans lequel se trouvait le bain a été conçu à l'origine pour les militaires, pour l'entraînement de jeunes athlètes et pour le développement artistique et intellectuel du peuple.
Et oui, intellectuel, car c'est au bain que l'on discute aussi philosophie.
Le système d'eau chaude dans les bains grecs était extrêmement simple jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il n'existait en fait pas de processus mécanique. On chauffait simplement les salles avec la simple vapeur de l'eau chaude des baignoires ou avec du bois.
Les Romains font évoluer les thermes qui seront alors accessibles à tous sans distinction de classe et gratuits. On les appelle alors les palaces du peuple.
Et côté technique, ils évoluent aussi, ils s'agrandissent et l'air chaud va circuler à partir des sols et aussi le long des murs dans des tubulars, ce qui permettait d'avoir la température désirée.
Concrètement, les bains étaient ouverts aux femmes le matin, aux hommes l'après-midi et après s'être dévêtus, on s'asseyait donc dans une salle conçue tout d'abord pour la sudation sèche.
Et puis un esclave venait vous gratter le dos avec une brosse pour vous débarrasser de la saleté et de la sueur. Une fois propre, on se rendait dans le caladrium pour se baigner dans un bain chaud.
Et pour se refroidir et raffermir sa peau, on passait ensuite dans un bain tiède, le tiédarium. Et enfin dans un bain froid, le frigidarium, ou directement dans la piscine qu'on appelait alors le natatio.
On en apprend des choses.
Eh oui.
Les thermes disposaient également de galeries pour se promener, de salles de gymnastique et quelquefois même d'une bibliothèque.
Ah, l'on savait vivre à cette époque. Coutumes hygiénistes s'étendent jusqu'en Orient avec les bains turcs ou les hammams qui aujourd'hui encore mêlent rites de purification religieux, plaisir et hygiène.
Le hammam est considéré comme complémentaire à la mosquée. C'est dans le hammam que l'ablution est faite, la purification du corps à travers l'eau et la prière.
Beaucoup de similitudes avec les bains romains, cela dit.
Bagdad comptait jusqu'à 30 000 hammams à son âge d'or. Lorsqu'ils arrivèrent en Occident vers le XIIIe siècle, ces hammams furent interdits par l'Église chrétienne. Ce fut en quelque sorte le début de la prostitution. Et on croyait à tort que les hammams propageaient des maladies.
Et oui, alors qu'en réalité, l'eau permet de débarrasser le corps des impuretés et des toxines, l'eau et l'eau chaude et la vapeur. Outre son effet relaxant.
Sans parler de son rôle social.
Et oui, également.
Les dieux pour qu'elle dit non.
Nous sommes au bain dans notre pochette surprise de cette semaine. Dans l'étuve, nous suons, nous nageons, nous nous lavons. Et après l'Antiquité, après les bains turcs, eh bien nous arrivons au Moyen-Âge.
Au Moyen-Âge, période d'obscurantisme et non plus de pureté. Cela dit, on se baigne encore en ville au Moyen-Âge dans des bains publics. Et on en dénombre environ 25 pour 250 000 habitants que comptait Paris en 1292.
On les appelle les étuves, ces bains, des étuves sèches où l'on envoie de l'air chaud et des étuves humides où là, c'est de la vapeur qui est envoyée. Cela ressemble au hammam car c'est l'influence de l'Orient qui arrive en Occident après les croisades.
Dans ces étuves, on y mange, on y boit, on se fait masser. L'ambiance est très très chaude et l'Église va alors dénoncer ces lieux d'immoralité. Il est vrai qu'il accélère, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'essor de la prostitution à l'époque.
Mais finalement, pour se laver, rien ne vaut alors l'eau des rivières et l'on peut voir fréquemment des hommes, des femmes se baignant nus. Et d'ailleurs, jusqu'au XVIe siècle, le nudisme n'est pas si réprimandé qu'aujourd'hui.
Oui, ouais. Qu'on pourrait le croire, en effet, parce que ce n'est qu'au XVIIe siècle que le nudisme, des femmes surtout, fut interdit. Et le port de la chemise rendu obligatoire à cette époque-là. En tous les cas, l'hygiène corporelle perd du terrain et semble partir à volo avec les latrines.
Ah, les latrines, parlons-en. Les latrines qui, chez les Romains, étaient des lieux publics où l'on se rendait pour vider ou pour laver ses bassines. Il y en avait aux quatre coins de Rome.
Au Moyen-Âge, elles disparaissent. On ne sait pas pourquoi. On jette directement ces bassins dans les rues, par les fenêtres, sur la chaussée, avec le reste des immondices, ce qui apportera de grandes épidémies, peste, choléra, fièvre, typhoïde.
Des latrines, on en construit cependant dans les châteaux, le plus souvent sous forme de guérite en bois qui évacue dans les douves, ou en encorbellement dans l'épaisseur des murs, avec conduit sur la paroi oblique du mur.
Il est donc venu le temps, non pas des cathédrales, encore que... Mais le temps de la toilette sèche.
Et la salle de bain, c'est pour plus tard.
Le lavabo. Je trouve ça pas beau. Et le bidet. Je le trouve laid. Le cumulus n'a rien de plus. Dans la baignoire, plus rien à voir. Pourquoi t'es parti? T'es parti. La brosse à dents, c'est déprimant. Le dentifrice. Supplice. Les cotons-tiges. Rien qu'un vestige. Le papier toilette. À la violette. Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti? La bombe a rasé. Pourquoi t'es parti? Prête à exploser. Pourquoi t'es parti? Et le rasoir. Pourquoi? pourquoi t'es parti? Un vrai tranchoir. Pourquoi t'es parti? Pourquoi t'es parti?
Les gants de toilette, t'as pas de lunettes, mais grâce à tes yeux, tu laves bien mieux. Mais grâce à tes yeux, tu laves bien mieux. Gants de toilette, t'as pas de lunettes, mais tu as des yeux. Et qui invite au jeu.
La propreté aujourd'hui dans Pochette Surprise, mon cher Jackie, utilisez-vous des gants de toilette?
Je t'ai posé cette question. Moi, je trouve que c'est pas très pratique. Hein.
Vous pas très pratique, ou... oui.
Bah,
oui.
C'est pas, faut les changer tous les jours, quoi.
Ah bah oui, d'accord. Mais...
sinon aussi, c'est, j'aime bien pour le visage surtout.
Oui, d'accord. Revenons au Moyen Âge. Le Moyen Âge, donc nous le disions, n'est pas des plus propres. Mais il faut savoir qu'on se parfume au Moyen Âge. Les parfums arrivent d'Orient. On se coiffe, il existe même des blanchisseurs, hein, c'est un métier qui apparaît. Simplement, l'hygiène n'est plus à la mode.
On utilise uniquement un linge propre pour frotter les parties visibles du corps. Pour le reste, on évite soigneusement l'eau. Pourquoi, Philippe ?
Eh bien, parce que l'on croit que c'est de l'eau que viennent les maladies. Et oui, on croit qu'elle s'infiltre par les pores de la peau. Alors, pour se protéger de la peste ou du choléra, eh ben rien de mieux qu'une...
bonne couche de crasse.
Eh oui.
Et c'est l'hygiène vestimentaire qui se développe, si on peut dire. Plus on a de vêtements sur soi, mieux c'est. Et moins on en change, plus on est propre.
Eh oui, entre guillemets. Un habit blanc qui est devenu noir est bien perçu, car il a capté la saleté. Donc, plus besoin de se laver pour être en bonne forme. Et même les médecins, à l'époque, sont sceptiques face au lavage avec du savon.
Puisque l'eau était nuisible, voire mortelle, les courtisans pratiquaient ce que l'on appelle la toilette sèche. Elle consistait à changer de vêtements plusieurs fois par jour, ce qui n'empêchait nullement les odeurs corporelles d'apparaître.
Et pour masquer ces fâcheuses odeurs, on avait recours aux pastilles d'anis pour parfumer la laine et aux parfums. Alors, le parfum ne modifiait pas seulement les odeurs, mais il était censé les assainir, effacer cette crasse et protéger le corps d'éventuelles maladies en pénétrant à l'intérieur des organes.
Les hommes et les femmes de la cour se fardaient, se poudraient le visage, le corps, les cheveux pour éviter de se les laver, car la crasse était censée leur donner vigueur et beauté.
Les courtisans usaient de plusieurs produits, poudre de Chypre, pommade de Florence, ça fait rêver, cire d'Espagne, essence de Gênes, ainsi que d'autres onguents toujours capiteux.
Se voir au loin sur ma
À l'instant, c'était Jennifer dans Le Parfum. Nous reviendrons en fin d'émission sur les parfums de l'Orient et les hammams avec un texte lu par Frédéric Brias. Quel est ce titre ?
Un texte extrait de L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun. Il nous racontait son enfance dans les hammams.
Allez, on revient au décrassage. Pour d'éventuels décrassages, on utilisait, à l'époque du Moyen-Âge toujours, oui, un frottoir en peau, car on ignorait la serviette, on se lavait les mains et le visage avec un pain d'amande. Cependant, les baignoires étaient tout de même utilisées.
Et oui, il était possible de la louer, la baignoire, pour 20 sous par jour. Une baignoire de cuivre et une baignoire de bois pouvaient être louées pour moitié moins. Louis XIV aimait l'eau, contrairement à ce que l'on peut penser. Et s'il est vrai qu'il répugnait à se plonger dans une baignoire, il lui était fréquent de se baigner en rivière ou de se rendre justement chez un baigneur.
Il fait construire au rez-de-chaussée du château de Versailles un appartement des bains d'un luxe incroyable. Il était constitué d'un cabinet dorique, d'un cabinet ionique, d'un salon octogone et d'un cabinet des bains. Marbre, sculpture, peinture, bronze, stuc, tout y était exceptionnel et magnifique. Une cuve octogonale était placée dans l'une des pièces. Elle servait de baignoire et elle fut taillée dans un bloc de marbre. Cuve qui existe toujours dans l'orangerie.
Au XVIIIe siècle, deux maisons offraient encore des bains chauds. L'on s'y baignait en caleçon et en bonnet. Et c'est de là d'ailleurs que partira la mode des maillots de bain.
Je ne sais si vous l'avez remarqué, mais chaque année au moment de l'été, on en a un peu assez de travailler. Pour se libérer, on jette loin ses souliers. Et comme on n'a rien à faire, on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Allons tout de suite respirer l'air de la mer en maillot de bain, livre à la main, lunettes sur le nez, respirer. Rien de tel qu'un matelas pour se relaxer, installé au soleil pour bien se bronzer. Et comme les gens ne pensent qu'à s'amuser, on n'a que des choses drôles à regarder. J'attendais donc l'événement qui mettrait un peu de mouvement lorsque je suis arrivée comme tous les ans en maillot de bain, livre à la main, lunettes sur le nez, inspirée. Soudain un Anglais déguingandé, pas mal d'ailleurs mes costumes très foncés, parapluie noir et tout de blanc ganté, dans une cabine de bain s'est éclipsé. Quand il en est ressorti, nous étions tous ébahis, car il avait avec lui son parapluie en maillot de bain, livre à la main, lunettes sur le nez, respiré. On peut dire qu'il n'était pas gêné, il nous a dit que faites-vous allonger. Alors quoi, bande de feignants, vous dormez? Apprendre ce qu'est l'humour anglais. Un petit peu d'humour physique, vous allez mettre en pratique pendant deux ou trois bonnes heures, c'est fantastique. En maillot de bain, petit livre en main, vous inspirez, vous expirez. En maillot de bain, petit livre en main, vous inspirez, vous expirez. En maillot de bain, petit livre en main.
Je fais le tour de la terre du sud au nord d'océan désert. Beau la terre, je me faufile de ville en île, attention aux épines, aux avions. Beau les îles. Je suis une bulle de savon et
pioché, mais caché, on avale sans arrêt, il y a danger.
De retour sur RVR, la radio qui vous revigore, mon cher Jackie. C'est Pochette Surprise aujourd'hui.
Oui.
Et c'est du propre, l'hygiène à travers les siècles. L'hygiène, à l'instant, avec les bulles de savon de Polnareff. L'hygiène qui laisse indifférente la population jusqu'au XVIIIe siècle.
Et après 1750, de grands travaux d'urbanisme furent entrepris à Paris. Et là, le phénomène de propreté s'étendra dans toutes les grandes villes de France.
Après deux siècles de malpropreté, les Français du siècle des Lumières redécouvrent les plaisirs de l'hygiène.
Les salles de bain deviennent à la mode sous Louis XVI, avec des cuves en cuivre et des baignoires sabots. Et dès 1770, les premières baignoires en tôle popularisent cette diffusion.
Toutefois, on se baigne encore souvent dans les rivières, à la grande indignation de certains qui, contrairement au Moyen-Âge où la nudité était tolérée, eh bien désormais on critique vivement cette pratique et on va essayer désormais de se baigner à l'abri des regards dans ces bateaux-lavoirs notamment.
C'est seulement au XIXe siècle que le bain redevient une pratique hygiéniste. Le bain frais pour son action tonique, le bain tiède pour le bien-être, le bain chaud en thérapie.
Parallèlement, la chimie avance. En 1774, le Suédois Carl Wilhelm Scheele découvre le chlore. Les scientifiques découvriront plus tard que mélangé à l'eau, il blanchit les objets et mélangé à une solution de soude, il désinfecte. L'eau de Javel vient de faire son apparition.
Les progrès de la science relèguent au placard les vieilles croyances, grâce aux expériences de Louis Pasteur notamment. Et à mesure que l'on découvre les bactéries et leur rôle clé dans les infections, eh bien on comprend qu'il est possible de s'en protéger en
se lavant les mains. Eh oui, et en faisant sa toilette avec du savon cette fois-ci. L'hygiène, synonyme de prévention, de santé, est lancée. Toilette et vaccination seront les maîtres mots de cette fin du XVIIIe siècle.
On organise à l'échelle mondiale l'hygiène publique dans le but évident de limiter enfin la mortalité. Et doucement, la notion d'hygiène s'ancre dans les esprits, notamment aussi grâce à l'école.
Mais le changement est lent, très lent, car il faut lutter encore et toujours contre les croyances et les habitudes. L'idée du propre et du sale qui varie aussi selon les pays.
Sous la douche, on se touche, on se fait des bisous sur la bouche. Sous la douche, on se touche, on s'enlace, on s'embrasse. J'essaie de te noyer, tu cries au secours, tu peux plus respirer. Je te fais du couche à couche, sous la douche. Splish splash, sous la mousse. Splish splash, sous la douche, on se touche, on se fait des bisous sur la bouche. Sous la mousse, on se trémousse, on arrose la salle de bain, on joue comme des jeunes chiens. J'essaie de te noyer, tu cries au secours, tu peux plus respirer. Je te fais du touche à bouche, sous la douche. Splish splash, sous la mousse. Splish splash, sous la douche, on se touche, on se fait des bisous sur la bouche. On met de l'eau partout, on glisse sur le savon, on rigole comme des fous. Tu essaies de me noyer, je crie au secours, je peux plus respirer. Tu fais du bouche à bouche, sous la mousse. Splish splash, sous la douche.
dans les années 30, de nombreuses municipalités subventionnent et créent des bains publics, alors que dans le logement luxueux, la salle de bain est devenue aussi commune que la cuisine.
En 1962, 29% des foyers seulement disposent d'une baignoire ou d'une douche, 48% en 1968, 85% seulement, je dirais aussi, en 1990.
Eh oui. Pour rester dans les statistiques, eh bien, sachez que 44% des Français disent se laver tous les jours. Les Français prennent en moyenne 7 douches par semaine. Les hommes consacrent 35 minutes à leur toilette, les femmes 45.
On a dit que les Français étaient plus sales que les Anglais. Alors c'était sûrement vrai au 18e et au 19e siècle, car notre réseau d'eau n'était pas aussi développé que le leur. Quoi qu'il en soit, on s'est bien rattrapé depuis, puisque les Français aujourd'hui se douchent davantage que les Anglais et se lavent massivement plus les mains.
Mais il faut savoir que la propreté, disons l'excès de propreté, a des conséquences sur notre santé. Elle nous rend plus vulnérables au virus. Selon une étude, nous nous laverions trop et surtout pas comme il faudrait. Par exemple, il faudrait moins utiliser le savon et prendre des douches plus courtes.
Il faut savoir enfin que la couche de notre peau sur les mains, par exemple, est une barrière contre les bactéries. Et si l'on fait un usage intensif du savon, je pense par exemple aux infirmières, les produits détergents attaquent cette barrière et la peau abîmée est moins efficace alors pour réduire le nombre de bactéries. Voilà donc comment le trop, le mieux, est l'ennemi du bien, si l'on peut dire.
De même, prendre des douches ou des bains trop fréquemment pourrait déséquilibrer les mécanismes de défense naturelle de la peau et être en réalité contre-productif.
C'est pour cette raison que les scientifiques pensent, affirment aujourd'hui que la plupart des gens se lavent trop. Et que pour rester en bonne santé, une à deux douches par semaine serait suffisante.
Cela n'exclut pas de se laver, bien entendu. Un coup de savon quotidien est bien préconisé, mais les dermatologues sont unanimes. Certaines parties du corps n'ont pas besoin d'être savonnées à outrance.
Et comme toujours, la vertu est dans le juste milieu. L'équilibre en toute chose. Il ne faut pas nier l'impact du marketing dans nos modes de consommation. Certains s'interrogent aujourd'hui sur les bienfaits des shampoings, des gels douches, des désodorisants qui contiennent par exemple des sels d'aluminium.
L'important n'est pas d'arrêter de prendre soin de soi, mais de le faire différemment et avec le moins de produits de grande consommation possible.
Et sans parler des économies d'eau que l'on se doit de réaliser. Sachez qu'on en consomme chaque jour pour son usage personnel environ 240 litres. C'est énorme. Et certains Américains, 600 litres par jour. Quand, dans d'autres pays défavorisés, et c'est un euphémisme, la consommation n'est possible que pour 10 litres par jour pour certains.
Dalida, elle, c'était 10 000, pas 10 000 litres, mais 10 000 bulles bleues.
Longtemps, j'ai fait le même rêve. Je voyais dans mes nuits 10 000 bulles bleues, rapides, limpides, légères, tout un carrousel de chandelles, d'étincelles dans le ciel. Je t'aime.
elles sont revenues. 10 000, 10 000 bulles bleues, rapides, limpides, légères, tout un carousel d'étincelles, de chandelles dans le ciel.
Bien, pour terminer cette propre pochette surprise, nous retournons au hammam avec Frédéric Bruyas qui a choisi de nous lire un extrait d'un texte de Tahar Ben Jelloun, extrait de L'Enfant des Sables. Il est allé au hammam. Vous aimez le hammam, Jacqui ?
Oui, je crains pas. C'est agréable. Ouais. Mais je n'en ai pas fait suffisamment. Je crois que
vous en avez fait en Tunisie, au
ça
Maroc ?
Ça m'est arrivé au Maroc, oui, ah, une fois.
J'en étais sûr.
Mais pas suffisamment quand même.
Le choix de lecture de Frédéric Bruyas, mis en musique par Philippe Fest. Aujourd'hui, L'Enfant de Sable de Tahar Ben Jelloun.
Ma mère mit dans un petit panier des oranges, des œufs durs et des olives rouges marinées dans le jus de citron. Elle avait un fichu sur la tête qui retenait le henné étalé dans sa chevelure la veille. Moi, je n'avais pas de henné dans les cheveux. Lorsque je voulus en mettre, elle me l'interdit et me dit « C'est réservé aux filles. » Je me tus et la suivis au hammam. Je savais que nous devions y passer tout l'après-midi. J'allais m'ennuyer, mais je ne pouvais rien faire d'autre. En vérité, je préférais aller au bain avec mon père. Il était rapide et il m'évitait tout ce cérémonial interminable. Pour ma mère, c'était l'occasion de sortir, de rencontrer d'autres femmes et de bavarder tout en se lavant. Moi, je mourais d'ennui. J'avais des crampes à l'estomac. J'étouffais dans cette vapeur épaisse et moite qui m'enveloppait. Ma mère m'oubliait. Elle installait ses seaux d'eau chaude et parlait avec ses voisines. Elle parlait toutes en même temps. Qu'importe ce qu'elles disaient, mais elles parlaient. Elles avaient l'impression d'être dans un salon où il était indispensable pour leur santé de parler. Les mots et phrases fusaient de partout et, comme la pièce était fermée et sombre, ce qu'elles disaient était comme retenu par la vapeur et restait suspendu au-dessus de leur tête. Je voyais des mots monter lentement et cogner contre le plafond humide. Là, comme des poignées de nuages, ils fondaient au contact de la pierre et retombaient en gouttelettes sur mon visage. Je m'amusais ainsi. Je me laissais couvrir de mots qui ruisselaient sur mon corps, mais passaient toujours par-dessus ma culotte, ce qui fait que mon bas-ventre était épargné par ces paroles changées en eau. J'entendais pratiquement tout et je suivais le chemin que prenaient ces phrases qui, arrivées au niveau supérieur de la vapeur, se mélangeaient et donnait ensuite un discours étrange et souvent drôle. En tout cas, moi, ça m'amusait. Le plafond était comme un tableau ou une planche d'écriture. Tout ce qui s'y dessinait n'était pas forcément intelligible, Mais, comme il fallait bien passer le temps, je me chargeais de débrouiller tous ces fils et d'en sortir quelque chose de compréhensible. Il y avait des mots qui tombaient souvent et plus vite que d'autres, comme par exemple la nuit, le dos, les seins, le pouce. À peine prononcés, je les recevais en pleine figure. Je ne savais d'ailleurs quoi en faire. En tout cas, je les mettais de côté, attendant d'être alimenté par d'autres mots et d'autres images. Curieusement, les gouttes d'eau qui tombaient sur moi étaient salées. Je me disais alors que les mots avaient le goût et la saveur de la vie. Et pour toutes ces femmes, la vie était plutôt réduite. C'était peu de choses. La cuisine, le ménage, l'attente, et une fois par semaine, le repos dans le hammam. J'étais secrètement content de ne pas faire partie de cet univers si limité. Je jonglais avec les mots et ça donnait parfois des phrases tombées sur la tête, du genre « la nuit, le soleil sur le dos, dans un couloir, ou le pouce de l'homme, mon homme, dans la porte du ciel, le rire. » Puis soudain, une phrase sensée « l'eau est brûlante, donne-moi un peu de ton eau froide. » Ces phrases n'avaient pas le temps d'être soulevées vers le haut par la vapeur. Elles étaient dites sur un ton banal et expéditif. Elles ne faisaient pas partie du bavardage. En fait, elles m'échappaient. Et cela ne me gênait pas du tout. Que pouvais-je faire avec des phrases vides, creuses, incapables de s'élever et de me faire rêver? Il y avait des mots rares et qui me fascinaient parce que prononcés à voix basse, comme par exemple « Mani ». J'ai su plus tard que c'était des mots autour du sexe et que les femmes n'avaient pas le droit de les utiliser. Sperme, couille, vagin. Cela ne tombait pas. Ils devaient rester collés sur les pierres du plafond qu'ils imprégnaient de leur teinte sale, blanchâtre ou brune. Il y eut une fois une dispute entre deux femmes à cause d'un seau d'eau. Elles avaient échangé des insultes où ces mots revenaient souvent à voix haute. Là, ils tombèrent comme une pluie et je me faisais un plaisir de les ramasser et de les garder secrètement dans ma culotte. J'étais gênée et j'avais peur parfois que mon père se chargeât de me laver comme il aimait de temps en temps le faire. Je ne pouvais pas les garder longtemps sur moi car ils me chatouillaient. Lorsque ma mère me savonnait, elle était étonnée de constater combien j'étais sale. Et moi, je ne pouvais pas lui expliquer que le savon qui coulait emportait toutes les paroles entendues et accumulées le long de cet après-midi. Quand je me retrouvais propre, je me sentais nue, comme débarrassée de frusques qui me tenaient chaud. Après, j'avais tout le temps pour me promener comme un diable entre les cuisses de toutes les femmes. J'avais peur de glisser et de tomber. Je m'accrochais à ses cuisses étalées et j'entrevoyais tous ces bas-ventres charnus et poilus. Oh, ce n'était pas beau. C'était même dégoûtant. Le soir, je m'endormais vite, car je savais que j'allais recevoir la visite de ces silhouettes que j'attendais, munies d'un fouet, n'admettant pas de les voir si épaisses et si grasses. Je les battais, car je savais que je ne serais jamais comme elles. Je ne pouvais pas être comme elles. C'était pour moi une dégénérescence inadmissible. Je me cachais le soir pour regarder dans un petit miroir de poche mon bas-ventre. Il n'y avait rien de décadent. Une peau blanche et limpide, douce au toucher, sans plis, sans rides. À l'époque, ma mère m'examinait souvent. Elle non plus n'y trouvait rien. En revanche, elle s'inquiétait pour ma poitrine, qu'elle pansait avec du lin blanc. Elle serrait très fort les bandes de tissu fin, au risque de ne plus pouvoir respirer. Il fallait absolument empêcher l'apparition des seins. Je ne disais rien, je laissais faire. Ce destin-là avait l'avantage d'être original et plein de risques. Je l'aimais bien. De temps à autre, des signes extérieurs venaient me confirmer dans cette voie. Ainsi, le jour où la caissière du hammam me refusa l'entrée, parce qu'elle considérait que je n'étais plus un petit garçon innocent, mais déjà un petit homme, capable de perturber par ma seule présence au bain la vertu tranquille et les désirs cachés de femmes honnêtes. Ma mère protesta pour la forme, mais elle était au fond heureuse. Elle en parla fièrement le soir à mon père, qui décida de me prendre avec lui dorénavant au hammam. Je me réjouissais dans mon coin et attendais avec une énorme curiosité cette intrusion dans le brouillard masculin. Les hommes parlaient peu. Ils se laissaient envelopper par la vapeur et se lavaient assez rapidement. C'était une ambiance de travail. Ils expédiaient leurs ablutions en vitesse, se retiraient dans un coin sombre pour se raser le sexe, puis s'en allaient. Moi, je traînais et je déchiffrais les pierres humides. Il n'y avait rien dessus. Le silence était interrompu par le bruit des seaux qui tombaient ou les exclamations de certains qui éprouvaient un plaisir à se faire masser. Point de fantaisie, ils étaient plutôt ténébreux, pressés d'en finir. J'appris plus tard qu'il se passait bien des choses dans ces coins sombres, que les masseurs ne faisaient pas que masser, que des rencontres et retrouvailles avaient lieu dans cette obscurité et que tant de silence était suspect.
C'était Pochette Surprise, que vous pouvez écouter tous les mardis à 21h, mon cher Philippe, et chers auditeurs, bien sûr, tous les samedis à midi, puis sur notre, en podcast sur notre site rvrradio.fr.
Et bien, bonne semaine à tous, hein. Bye bye.
Bye bye.